en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Signal et neurones, c'était le thème de la séance de l'Académie des sciences qui s'est déroulée le 3 mars 2009 en grande salle des séances. Cette séance était coordonnée par Odile Macqui, membre de l'Académie des sciences, spécialiste de la théorie du signal, de l'information et des communications. Odile Macqui, que vous allez entendre dans quelques instants. Parmi les intervenants, nous vous proposons d'écouter deux d'entre eux, Denis Schwartz et Olivier Bertrand. Denis Schwartz s'intéresse à la connectivité fonctionnelle corticale révélée par les signaux de magnéto-encéphalographie et d'électro-encéphalographie, MEG et EG pour les intimes. Denis Schwartz travaille au laboratoire de neurosciences cognitives et imagerie cérébrale, le LENA, à Paris, en collaboration avec Lynn Guerneau. Le deuxième communicant est Olivier Bertrand, directeur de recherche à l'INSERM, à l'unité 821, dynamique cérébrale et cognition à Lyon. Il développe quant à lui l'étude de temps-fréquence des oscillations neuronales et de leur rôle dans les fonctions cognitives. Tout de suite, Odile Macqui qui introduit le thème de la séance.
Le signal, c'est toujours vu comme une réalité dynamique. Dans l'esprit, on voit quelque chose de fluctuant. Et évidemment, c'est le cas de l'influx nerveux, des signaux qui sont traités, émis, reçus par les neurones. Donc, ces signaux d'influx nerveux, qui sont des modèles d'efficacité par leur coordination, et puis tout en étant très modestes par leur niveau, ils nous donnent des exemples magnifiques parmi les plus beaux signaux naturels qu'on puisse trouver. Donc, ils véhiculent l'information de la vie, ils font rêver, et parce qu'ils sont dynamiques, la vie, elle est dynamique, elle est imprévisible, et elle est communication. Et on va voir des choses comme ça aujourd'hui, peut-être techniques, mais derrière tout ça, il y a ces grandes idées de la vie. Alors, du côté du signal, dans les deux dernières décennies, on s'est attaché à lever des restrictions sur les théories qui étaient liées à des hypothèses trop contraignantes. Et donc, on a vu fleurir les travaux sur ce que j'appellerais le domaine des non, N-O-N. Les non-stationnaires, les non-gaussiens, les traitements non-linéaires, et puis aussi, on peut dire un peu que c'est des noms, des signaux qui ne viennent pas d'une source, mais qui sont multisources, donc... Et on appelle ça les traitements MIMO en signal, Multiple Input, Multiple Output. Du côté des neurones, dans les même deux dernières décennies, il y a eu des acquis expérimentaux qui ont mis en évidence des situations tout à fait de ce type. Donc on en verra cet après-midi sur les signaux d'enregistrement épileptique, des transitoires, des non-stationnarités magnifiques. Sur les signaux d'enregistrement aussi, on voit des statistiques qui n'ont rien de gaussien. On voit des interactions non linéaires entre les aires corticales différentes. On voit des interactions spatiales qui nécessitent évidemment le multiple input, c'est-à-dire pour pouvoir les observer, d'avoir un grand nombre d'entrées. Donc ce n'est pas étonnant que les progrès spectaculaires qu'on a vus dans les neurosciences récemment se soient faits en interaction avec le traitement du signal. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc je vais d'abord introduire les personnalités. Donc Lynn Guerneau est directrice adjointe du tout récent centre de recherche de l'Institut Cerveau-Moelle qui vient d'être inauguré là le mois dernier. Et donc Denis Schwartz qui parle pour elle, qui est ingénieur de recherche au centre magnéto-encéphalographie de cet institut Cerveau-Moelle.
Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général, mesdames, messieurs. Juste avant de commencer, effectivement, Lynn Guerneau ne peut pas faire cette présentation aujourd'hui. Nous avons néanmoins préparé cette présentation ensemble. Voilà, donc je voulais la remercier ici de la confiance qu'elle m'accorde. Donc je vais vous parler dans cette première présentation de connectivité fonctionnelle corticale pour vous expliquer un peu ce qu'on entend par là, qu'est-ce que ça sous-tend et comment surtout on en fait des images de façon, comment on l'étudie de façon non-invasive chez l'homme avec des signaux de magnéto-encéphalographie et d'électro-encéphalographie. Donc dans un premier temps, je vais revenir sur quelques bases du fonctionnement cérébral. Ce qu'on remarque en premier au niveau du cerveau, effectivement, c'est que les neurones qui ont des propriétés fonctionnelles communes se regroupent sont regroupés de façon spatiale, en fait. On a une ségrégation fonctionnelle au niveau du cerveau. Donc, on a une spécialisation fonctionnelle des aires corticales qui peut être extrêmement importante pour des tâches relativement simples et plus diffuses dans des aires associatives. Donc, une aire corticale va participer à une fonction ou au sous-traitement d'une partie d'une fonction. Donc, pour résoudre une fonction relativement complexe, le cerveau va mettre en jeu plusieurs aires corticales. On va voir l'apparition d'une coopération transitoire de plusieurs aires pour réaliser la fonction. Et cette coopération transitoire, elle va être médiée physiquement au travers donc, des axones, des fibres de matière blanche qui vont relier les neurones les uns aux autres et permettre donc aux différentes aires corticales de discuter les unes avec les autres. Quelle est la nature physique en fait du lien, pas physique, mais la nature du signal en fait entre ces aires? On va revenir à une hypothèse qui avait été émise par Francisco Varela en 1995, qui est que tout acte cognitif ou signe pathologique au niveau du cerveau correspond à l'émergence d'une assemblée neuronale distribuée qui va être spécifique de la fonction, qui va être transitoire, parce qu'elle ne va exister que pendant la réalisation de la tâche, et surtout qui va être synchrone. Donc les zones vont fonctionner de façon synchrone les unes avec les autres. Alors, ces synchronies, on les remarque, on les observe à tous les niveaux d'observation du cerveau. En fait, on va avoir d'abord ce qu'on appelle des synchronies locales, qui vont signer en fait l'activation d'une aire corticale, l'activation donc d'une assemblée de neurones qui va répondre à une sous-partie de la tâche. Donc ça, on peut l'observer en faisant des enregistrements intracellulaires et puis en s'éloignant peu à peu jusqu'à regarder la population dans son ensemble avec, par exemple, de l'électroencéphalographie. On va avoir des émergences d'activités synchrones dans des bandes de fréquences particulières qui vont signer l'activité de la population de neurones, en fait. Donc qui, en gros, va décharger en fait, des potentiels d'action de façon synchrone. Alors ce qui est intéressant, c'est que si on s'éloigne un peu de la population de neurones et qu'on regarde les différentes aires du cerveau qui vont participer à la réalisation de la tâche, on s'aperçoit que ces synchronies persistent à longue distance. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai une aire occipitale et une aire frontale qui vont participer à la résolution de la tâche, elles vont aussi fonctionner de manière synchrone. Donc, on vient voir, on a deux échelles de synchronie ici, une échelle de synchronie au niveau de la population de neurones qui va signer l'activation à un endroit particulier, et puis des synchronies à longue distance qui vont marquer l'apparition d'un réseau nécessaire à la résolution de la tâche. Alors ce qu'il faut bien voir ici aussi, c'est que pour étudier ces phénomènes de synchronie, effectivement, on regarde le fonctionnement du cerveau en temps réel, donc on va de préférence regarder donc les signaux électromagnétiques du cerveau qui nous permettent d'avoir un accès direct à son activité. Et chez l'homme, on va pouvoir faire ça de façon non-invasive en utilisant des signaux de magnétoencéphalographie et d'électroencéphalographie. Alors, quelle est l'origine de ces signaux de magnétoencéphalographie et d'électroencéphalographie? Donc, lorsque les neurones envoient des potentiels d'action sur leurs axones, ce potentiel d'action va aboutir à un neurone aval, sur lequel il va déclencher un potentiel postsynaptique après passage de l'information au travers de la synapse. Ce potentiel postsynaptique va créer donc un courant qui va circuler à l'intérieur de la cellule. Ce courant va se reboucler, se propager vers l'extérieur. On aura bien sûr de façon simultanée création d'un champ magnétique. Alors bien sûr, on n'est pas capable d'enregistrer à distance les activités liées à un seul neurone. Par contre, effectivement, si on revient à notre synchronisation et que j'ai une aire dans son ensemble qui va s'activer pour répondre à une fonction donnée, donc par exemple une macrocolonne corticale de neurones qui va contenir 100 000 à 1 million de neurones qui va s'activer, là, les courants électriques et les champs magnétiques générés donc, vont s'additionner et vont produire des grandeurs qu'on va être capable d'enregistrer à la surface du scalp, en fait. Donc, pour résumer, les courants électriques cellulaires qui vont être générés par ma population de neurones actifs vont donner naissance donc à des courants électriques qui vont se propager, qui vont donner des différences de potentiel sur le scalp. C'est l'origine de l'électroencéphalographie. Et de façon concomitante, on aura génération d'un champ magnétique qui va lui aussi se propager et qu'on pourra enregistrer grâce à la magnétoencéphalographie. A priori, les champs magnétiques sont moins déformés, moins atténués que les courants électriques, ce qui explique qu'on utilise un appareillage plus coûteux et un peu plus important qui est la magnétoencéphalographie. Donc une fois que je sais enregistrer une image de mon activité cérébrale à la surface du scalp, mon problème va être de revenir à ce qui s'est passé sur le cortex, en fait. Donc là, j'ai à résoudre ce qu'on appelle un problème inverse, donc partir de des signaux en surface pour revenir à ce qui s'est passé sur mon cortex avant de pouvoir faire des images de la connectivité corticale. Donc là, comme tout problème inverse, j'ai deux parties. Une partie de modélisation qu'on va appeler un problème direct, où je vais essayer de passer des neurones vers les mesures, c'est-à-dire modéliser mes neurones pour savoir comment ils produisent du courant, généralement sous la forme de dipôles de courant, modéliser la façon dont ces courants électriques vont se propager dans la tête. Là, on va être un peu embêté parce que la géométrie de la tête est extrêmement complexe. Donc, on va généralement utiliser en fait des méthodes numériques qui sont basées sur l'utilisation de l'IRM anatomique du sujet, qui va nous permettre de définir avec précision la géométrie et les conductances à l'intérieur de la tête. Et on va résoudre notre problème direct, donc recalculer les propagations de courant au travers de méthodes par éléments frontières, par éléments finis ou par différences finies. Une fois qu'on est arrivé à cette étape-là, on va pouvoir passer à une étape d'estimation. On va passer là vraiment du signal vers les sources corticales, donc celle-là c'est vraiment mon problème inverse, et qui va consister à ajuster les paramètres du modèle que j'aurais défini au-dessus. En fait. Là on est confronté à un certain nombre de problèmes, d'une part une instabilité des solutions vis-à-vis du bruit, on a relativement peu de données, il ne faut pas oublier qu'on regarde en fait l'activité cérébrale avec 150 à 300 capteurs positionnés à la surface du scalp, et de façon théorique, mon problème est mal posé, mais la solution n'est pas unique en fait. Donc je vais avoir à ajouter dans ce problème des informations a priori et à régulariser le problème de façon à obtenir une solution unique et à stabiliser le problème vis-à-vis du bruit. Une fois que j'aurai fait ça, je serai passé donc de signaux à la surface du scalp, de signaux temporels à la surface du scalp, à des signaux temporels sur la surface corticale en fait. Je vais juste vous donner ici un exemple d'algorithme de localisation que nous utilisons et nous utilisons beaucoup quand nous faisons de l'imagerie donc de la connectivité corticale. Donc voici le modèle de formation des données. Il est relativement simple. J'ai mes mesures ici que je recueille à la surface du scalp. J'ai une matrice ici G qui va me permettre de passer donc de l'activité des sources à mes mesures. Donc c'est cette matrice qui va contenir toutes les informations de modélisation issues de mon problème direct. Et puis ici, j'ai mes activités corticales au cours du temps, puis bien sûr du bruit, comme dans n'importe quel enregistrement. Alors, quelles contraintes je vais imposer ici? Je vais déjà imposer une contrainte forte, mais relativement logique. Je sais d'où viennent, en gros, les activités que je vais enregistrer en surface. Donc, elles viennent du bandeau cortical, donc du bandeau de matière grise qui recouvre le cerveau. Je vais donc positionner un certain nombre de sources potentielles sous forme de dipôles de courant sur ce bandeau de matière grise. Donc, je vais faire ça sur l'ensemble du cerveau. Je vais mailler l'ensemble de mon cerveau avec des sources potentielles. Donc, la position de ces sources sera connue. Et mes inconnues seront donc les intensités d'activation de ces sources au cours du temps. Je vais donc devoir retrouver S, et pour retrouver S, donc je vais inverser l'équation ici de formation des données en régularisant cette équation donc par une minimisation au moindre carré. Et ici, on va en fait appliquer une approche de norme minimum où on va imposer, pour régulariser le problème, que l'énergie des sources soit minimum à chaque instant. Le résultat de cette équation va être en fait un film au cours du temps qui va me montrer en fait les intensités d'activation, les intensités de courants corticaux au cours du temps. Donc il existe d'autres méthodes de régularisation. Donc j'en suis arrivé à un point ici où j'ai enregistré donc effectivement en surface une image de l'activité corticale, j'ai recalculé ce qui se passait au niveau cortical. Il va donc maintenant falloir que j'extraie des signaux, des mesures qui vont me permettre d'estimer en fait et de décrire les réseaux corticaux mis en jeu lors de la réalisation de la tâche. Alors quel type de valeurs je vais calculer? On va donc calculer donc à la fois des valeurs qui vont nous permettre donc d'estimer les synchronies locales à l'intérieur d'une même zone et les synchronies à longue distance pour décrire les réseaux. Donc la première étape va être d'effectuer une décomposition temps fréquence du signal sur chaque source sur ma surface corticale. Ce qui va me permettre donc d'extraire les composants, d'extraire le contenu fréquentiel de mon signal sur le cortex. Et donc à gauche ici, si je prends le module de cette carte en fréquence, je vais pouvoir à chaque endroit du cerveau estimer, effectivement mettre en évidence des générations, en fait des apparitions d'énergie dans des bandes de fréquences particulières qui vont signer l'activation du nerf cortical à un endroit donné, à un moment donné et dans une bande de fréquences donnée. Une fois que j'aurai fait ça, je vais pouvoir passer ici à droite et donc calculer pour des fréquences d'intérêt et des zones d'intérêt des décalages de phase entre mes zones. Si ces décalages de phase restent constants au cours de la répétition de la tâche ou au cours du temps, ça veut dire que les deux zones considérées vont travailler de manière synchrone et donc je suis en train de faire une image, de mettre en évidence une relation forte entre deux aires cérébrales. Donc on calcule vraiment deux types de valeurs, l'une qui va nous permettre de mettre en évidence les zones qui sont activées et dans quelle bande de fréquence, et puis l'autre ensuite qui va nous permettre de mettre en évidence le réseau qui va participer à la résolution de la tâche. L'analyse n'est pas finie puisque effectivement l'activité du cerveau est continue. Le cerveau fait plein de choses, fait plein d'activités au même moment. Donc comment identifier les interactions qui sont spécifiquement liées à ma tâche en fait. Donc là on va faire des statistiques qui sont maintenant généralement des statistiques non paramétriques où on va utiliser des permutations, des échanges de données. Et par exemple au niveau d'un sujet lui-même, on va répéter une tâche. Par exemple, si vous faites reconnaître un visage à un sujet, eh bien, on va répéter plusieurs fois cette reconnaissance des visages. Et on va essayer d'extraire de cette répétition en fait, les activités qui réapparaissent à chaque fois. En fait, et les activités aléatoires qui ne sont pas liées à la tâche vont être éliminées par cette répétition. Alors ensuite, la dernière étape, effectivement, généralement, on fait une expérience au niveau d'une population de sujets. Là, on va être confronté à un nouveau problème, qui est une grande variabilité inter-sujet. Effectivement, nous avons tous des cerveaux qui ont des formes et des tailles différentes, une morphologie différente, et on a également une variabilité fonctionnelle, c'est-à-dire de stratégie, de fonction, qui est différente. Donc il va falloir effectuer ce qu'on appelle une normalisation qui va être à la fois anatomique et fonctionnelle. Donc on va remettre les cerveaux en gros dans la même boîte englobante, et on va chercher à extraire de notre population de sujets les réseaux qui se répètent et éliminer en fait les liaisons qui n'apparaissent sur quelques sujets qui sont spécifiques à un sujet donné en fait. On va obtenir une image finale ici de mon activité corticale et de mes synchronies corticales qui est représentatif en fait de la population mais qui n'est pas forcément applicable à un sujet individuel. Alors je vais vous montrer maintenant quelques exemples en fait d'expériences. La première ici est une tâche visiomotrice. Donc, c'est une expérience qui a été effectuée par Karim Gerbi dans le laboratoire, dans l'ancien laboratoire de Lingard Neuro, qui s'appelait l'ENA à la Salpêtrière. Et la question était, lors de cette tâche visiomotrice, pouvons-nous mettre en évidence les couplages entre aires corticales participant à cette tâche? Donc le sujet est installé dans la magnétoencéphalographie, il contrôle la rotation d'un cube 3D à l'écran, cette tâche est répétée un certain nombre de fois, entrecoupée de périodes de repos. Et la question était effectivement, est-ce qu'on va être capable, grâce aux signaux enregistrés, de mettre en évidence les différentes zones qui interviennent dans la boucle de contrôle visiomotrice, et est-ce que tout cela est lié au comportement moteur, donc au mouvement de la main sur le trackball. Alors, voici une toute petite partie des résultats. Donc, il concerne le versant moteur de l'expérience. Donc, quand on regarde l'activité de la main, la vitesse de la main sur le trackball, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de signal entre 2 et 5 Hz. Si on calcule en fait la cohérence entre cette vitesse sur le trackball et les signaux corticaux, l'activité des sources, on remarque aussi un pic entre 2 et 5 Hz. Et si on localise les sources effectivement qui sont particulièrement corrélées avec le mouvement de la main, on va trouver ici en bas à gauche une zone d'activité qui est positionnée donc à cheval sur le cortex moteur et le cortex sensitif qui contrôlent la main. On a donc ici un relais extrêmement important qui code directement la vitesse de la main sur le trackball. Karim a ensuite été voir si d'autres zones en fait participaient en fait au contrôle de la main à partir de ce relais dans le cortex moteur et cortex sensitif. Donc si on calcule la cohérence, là ce sont des résultats sur la population de sujets, sur une quinzaine de sujets. On va mettre en évidence ici à droite un réseau qui coopère avec la première zone mise en évidence. Donc un réseau assez large qui va mettre en relation, donc, par exemple ici des zones frontales, des zones dans le cervelet qui vont participer donc, au pilotage de la main. Donc vous voyez là, on est capable de mettre en évidence vraiment le réseau qui a piloté en fait, le mouvement de la main sur le trackball. Je vais vous montrer maintenant un exemple un peu plus dynamique, donc qui provient d'une expérience qui a été faite par Diego Cosmelli, toujours au LENA, en fait, et où on présentait donc deux images, enfin chaque œil avec une image différente. En fait, on présentait un visage sur l'un des yeux et des anneaux qui flashaient à 5 Hz sur l'autre œil. On a donc un paradigme là de rivalité binoculaire où la perception du sujet va basculer de façon spontanée entre le visage et les anneaux, en fait. Et lorsque le sujet va percevoir les anneaux, en fait, l'activité cérébrale va être marquée par la répétition à 5 Hz de ces anneaux. Et on va donc pouvoir étudier les réseaux qui vont apparaître lors de cette perception des anneaux en analysant ce qui se passe dans la bande des 5 Hz. Et ce qu'on va mettre en évidence ici, c'est l'apparition d'un réseau à la fois occipital, mais qui va se lier aussi avec des aires frontales au cours du temps et qui va disparaître quand on va basculer à nouveau sur les visages. Donc vous voyez là, on est vraiment capable de mettre en évidence au cours du temps, en temps réel, par rapport au fonctionnement du cerveau, en fait, la constitution des réseaux, l'activation des zones et la constitution des réseaux. Ça a des applications extrêmement importantes qui vous seront détaillées cet après-midi. Je vais juste vous donner un petit exemple ici au niveau de l'interface cerveau-machine, donc suite à une expérience de Michel Besser, toujours au LENA, dont le but était de classifier les états mentaux du sujet en temps réel et lui retourner l'information. En fait. Donc on fait une acquisition électroencéphalographique. Et on va faire une première étape d'apprentissage, en fait, où on va calculer mes sources d'activité corticale, comme je vous ai expliqué. On va calculer nos mesures de synchronie locale et de synchronie à longue distance. Et on va extraire un certain nombre de variables qui vont au mieux nous permettre de différencier les états mentaux du sujet. Grâce à ça, on va pouvoir faire une classification binaire. On va ensuite faire en temps réel et retourner donc l'information au sujet, par exemple, sous la forme d'un déplacement d'un curseur sur un écran. Sur cette expérience, le sujet avait à réaliser soit une tâche de calcul, soit imaginer une tâche de mouvement de la main, et ça se traduisait derrière par le déplacement en fait du curseur sur l'écran en fonction de l'état du sujet. Donc ça, c'était de façon totalement spontanée, asynchrone, sans stimulation. En fait. Donc ça ouvre des perspectives très importantes quant au pilotage d'instruments extérieurs directement par modification de l'état mental du sujet. Alors au niveau des perspectives, je vais surtout vous parler des perspectives au niveau de la localisation de sources, puisqu'effectivement je vous ai parlé beaucoup d'imagerie corticale. Actuellement on travaille beaucoup à inclure dans notre imagerie des structures profondes comme les noyaux gris centraux, l'hippocampe, l'amygdale, qui sont des pièces maîtresses en fait de la connectivité au niveau du cerveau. On ne voit pas très bien en MEG et en EEG, mais on essaye donc d'améliorer nos modélisations pour effectivement améliorer nos localisations et la prise en compte de ces zones. On travaille aussi beaucoup effectivement sur les algorithmes de localisation eux-mêmes, en essayant de mettre au point des approches non linéaires qui auront des résultats de localisation plus précis, tout en gardant une régularité temporelle et une bonne stabilité vis-à-vis du bruit. Enfin, d'un point de vue purement technique, effectivement, tout ça demande beaucoup de calculs, donc on a pas mal de développement technique à faire derrière pour pouvoir faire en temps réel, en fait, à la fois de la localisation et de l'estimation des interactions. J'en ai terminé, je voulais remercier en fait tous les gens qui ont participé à ces études, donc l'équipe de l'INGARNEURO au CRSM, en particulier Jacques Martinery, l'équipe technique de la plateforme MEG-EEG, Michel Besser, Sylvain Bayet, Diego Cosmelli, Olivier David, Karim Gerbi, Jean-Philippe Lachaud et Francisco Varela, malheureusement qui n'est plus avec nous, mais dont les travaux sont à l'origine de tout ce que nous avons fait ici. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Nous entendons Olivier Bertrand, qui est donc directeur adjoint de l'Institut fédératif de neurosciences à Lyon, directeur de recherche et directeur aussi de l'unité dynamique cérébrale et cognition de Lyon, et qui va introduire lui-même le titre et le sujet.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Odile Maki, je voulais vous remercier de m'avoir convié à cet après-midi de conférence. Donc mon exposé va être tout à fait dans la suite de ce que vous avez entendu à l'instant de Denis Schwartz sur la dynamique des réseaux oscillatoires en lien avec les fonctions cognitives, avec des visions un tout petit peu différentes dans la manière d'aborder ces questions-là. Donc la question que se pose le neurophysiologiste pour essayer de comprendre le fonctionnement cérébral, c'est toujours, très souvent, où, quand et comment. Où, quelles sont les régions qui sont impliquées dans un processus mental ou une fonction cérébrale particulière, quand quelle est la chronologie d'activation de ces régions et comment se font les interactions et les coopérations qui peuvent exister entre différentes régions. Donc il existe un arsenal de techniques chez l'homme qui permet d'explorer ces questions-là de manière non invasive, parfois invasive aussi, on va le voir tout à l'heure, qui permettent de répondre grâce à la neuroimagerie fonctionnelle, en particulier l'IRM fonctionnelle, à la question du « où ». Quelles sont les aires spécialisées, les aires cérébrales spécialisées qui sous-tendent certaines fonctions cérébrales? Donc, comment peut-on identifier les réseaux qui sont activés dans certaines tâches mentales? Et la technique de l'IRM fonctionnel permet d'avoir une sorte de photographie un petit peu instantanée, un cliché avec un temps de pause assez long, qui tient compte des caractéristiques du signal que l'on enregistre là, qui est un signal qui est lié aux variations hémodynamiques de l'activité cérébrale. Donc, ce n'est pas une mesure directe de l'activité cérébrale, c'est une mesure indirecte à travers les variations de consommation d'oxygène qu'elle induit. Donc avec des temps de réponse entre la présentation d'un stimulus et la réactivité du signal hémodynamique qui peut être de plusieurs secondes. Donc on a une image qui est un petit peu floue temporellement, mais extrêmement précise du point de vue spatial de l'activité cérébrale. En complément de cette approche-là vient l'électrophysiologie, donc comme l'a expliqué tout à l'heure Denis Schwartz. L'électrophysiologie permet vraiment d'aborder la question du quand, quelle est la chronologie d'activation des différentes régions cérébrales impliquées dans une fonction mentale particulière. Et on a à notre disposition des techniques comme l'électroencéphalographie, la magnétoencéphalographie, qui sont des techniques non invasives de mesure à l'extérieur du champ électrique ou du champ magnétique généré par les neurones. Mais on a également la possibilité d'enregistrer dans certains cas chez les patients épileptiques à travers, grâce à des enregistrements par électrode profonde implantés dans le cerveau pour des motivations cliniques bien sûr, l'activité à proximité des régions actives dans un réseau donné. Donc, je vais en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Donc, ça, c'est la question du quand, comment se déroule l'activité cérébrale. Et une question corollaire qu'a évoquée tout à l'heure Denis Schwartz, c'est quels sont les types de coopérations qui peuvent exister entre les différents éléments d'un réseau qui sous-tendent une fonction donnée. On sait que l'activité cérébrale est caractérisée par des régions spécialisées dans le codage de certains aspects d'un stimulus ou dans certaines activités motrices ou sensorielles. On sait aussi que beaucoup de ces fonctions cérébrales se font par coordination et coopération entre ces régions actives. Donc une hypothèse de travail, c'est que je voulais le souligner quand même par rapport à l'exposé de Denis Schwartz, c'est une hypothèse de travail actuelle, forte, sous-tendue par pas mal d'arguments expérimentaux, mais qui reste encore un débat ouvert, c'est que les activités oscillatoires, et en particulier les activités oscillatoires dans les bandes bêta et gamma, c'est-à-dire entre 15 et 150 Hz, ces activités oscillatoires, cette activité rythmique des populations de neurones pourrait sous-tendre les coopérations entre régions cérébrales impliquées dans une fonction mentale donnée. Et il existe un certain nombre de données issues de l'expérimentation chez l'animal, en particulier les travaux de Gray Singer à la fin des années 90, qui ont montré, suivis de beaucoup d'autres, qui ont montré que ces activités oscillatoires et ces synchronisations d'activités oscillatoires pouvaient sous-tendre les fonctions de perception, d'attention, d'apprentissage, de mémoire ou d'intégration sensorimotrice, pour ne citer que celle-ci. Donc une hypothèse de travail aujourd'hui qui est très forte et qui motive beaucoup de travaux, et on l'a vu avec ce que nous a présenté Denis Schwartz, c'est que ces activités synchronisées de populations de neurones, de réseaux de neurones distribués dans le cerveau, pouvaient sous-tendre différentes fonctions comme l'intégration sensorielle et même des fonctions cognitives de plus haut niveau, impliquant l'attention, la mémoire ou des aspects émotionnels par exemple. Cette dynamique cérébrale s'exprimerait par des couplages et des découplages de réseaux locaux ou distribués. Donc on aurait une sorte d'ensemble de régions cérébrales qui s'activeraient successivement en se couplant et se découplant par synchronisation et désynchronisation des activités neuronales. Donc, pour aller un petit peu plus en détail dans ce qu'on enregistre habituellement en électrophysiologie, ce qui se fait très classiquement et ce qui est connu depuis 40 ans, ce sont les réponses évoquées. On envoie un stimulus à quelqu'un, un stimulus auditif, visuel par exemple, et on sait que le cerveau va avoir un certain nombre de régions qui vont s'activer à la suite de ce stimulus et qui vont être des réponses finalement évoquées extrêmement reproductibles d'un stimulus à l'autre, qu'on ne voit pas ici dans ces exemples de réponses élémentaires parce qu'elles sont souvent très petites et noyées dans un bruit de fond qui est tout le reste de l'activité cérébrale, mais qui par un simple moyen âge calé sur la stimulation permet d'extraire quelque chose qui est connu sous le nom de potentiel évoqué ou réponse évoquée à un stimulus. Ce qui nous intéresse et ce qui ressort de la littérature comme présentant un intérêt également pour comprendre les interactions entre les régions cérébrales, ce sont les activités oscillatoires qui peuvent apparaître après un stimulus, mais de manière beaucoup plus variable dans le temps d'essai en essai, et qu'on appelle des activités induites par un stimulus, ça c'est une terminologie pour distinguer les deux, des activités induites par un stimulus, variables d'essai en essai, qui vont complètement disparaître par cette technique de Moyen-Âge, et qui nécessitent une approche par des techniques d'analyse spectrale. Par exemple, quand on sait exactement quelles sont les fréquences de ces activités oscillatoires, ce qui est rarement le cas, à part quelques grands activités comme l'alpha ou le θ, dont on connaît parfaitement la fréquence, mais dès qu'on s'intéresse au bêta ou au mu, à des gammes de fréquences plus élevées, les gammes dans lesquelles se situent ces activités sont beaucoup plus variables de tâche en tâche et de sujet en sujet. Donc l'intérêt très fort de l'analyse temps fréquence, et là j'ai été beaucoup inspiré quand je me suis lancé là-dedans il y a une vingtaine d'années par les travaux d'Yves Meyer et ses travaux de vulgarisation sur la question des ondelettes et de l'utilisation des ondelettes, et qui permet d'appréhender le signal autrement. Une transformation temps fréquence, ça consiste à représenter cette réponse-ci, par exemple, dans un domaine temps fréquence, c'est-à-dire une représentation, je vous passe les détails des formules qui permettent d'aboutir à ça, mais qui permet d'avoir une représentation où la couleur code pour l'intensité du signal dans une tranche de temps et dans une tranche de fréquence. Donc on a une représentation de ce type-là, ce qui va permettre, si elle est appliquée à chacune des réponses élémentaires, d'extraire et d'identifier des activités oscillatoires d'essai en essai. On répète le stimulus plusieurs fois dans une expérience classique, et on va pouvoir de cette manière isoler, identifier des variations d'activité oscillatoire qu'on appelle réponses induites, qui sont parfaitement caractérisées cette fois à la fois en temps, en décours temporel, et en fréquence, dans leurs caractéristiques plus ou moins stationnaires au cours du temps. Donc, avec cette approche-là, on a mené un certain nombre de travaux au milieu des années 90 avec Catherine Talon-Baudry, au cours de sa thèse, qui ont montré l'intérêt de ces oscillations, de ces activités oscillatoires en lien avec un certain nombre de processus cérébraux qui ont à voir avec la notion de représentation d'objets visuels. Donc on a mené des premières expériences qui consistaient à présenter au sujet des stimulus de ce type-là, soit des triangles illusoires, comme vous le voyez ici. On a parfaitement un percept très clair d'un triangle qui superpose à des disques noirs, ou un non-triangle dans ce cas-là. Et on voit apparaître, en enregistrant avec des électrodes de surface à la surface de la tête, de EEG, des activités gamma qui apparaissent vers 300 millisecondes après la stimulation et qui sont caractéristiques de la construction d'un objet cohérent comme ce triangle-ci. D'autres travaux ont consisté à essayer de comprendre ce qui se passe quand on analyse une scène visuelle complexe comme celle-ci, dans laquelle, quand on regarde bien, ça ressemble à des taches noires et blanches, mais quand on regarde bien, on voit apparaître ici l'image d'un chien dalmatien qui s'en va vers le fond. Et la tâche du sujet était d'identifier ce genre d'objet dans une scène visuelle complexe. Et à nouveau, on voyait apparaître des activités gamma oscillatoires qui apparaissaient vers 40-60 Hz après la stimulation et qui montraient des caractéristiques plus importantes, d'une puissance plus importante quand le stimulus était présent comme ceci. Et puis également dans des tâches de mémoire, je passe rapidement cette palette d'expériences, mais pour vous montrer que ces activités oscillatoires finalement apparaissent dans un certain nombre de situations expérimentales, y compris celles qui consistent à s'intéresser au phénomène de mémoire à court terme, où là le sujet doit mémoriser une forme quelconque, une forme qui est non nommable, après un délai, on lui présente une forme qui est soit la même, soit différente. Il a une tâche de mémorisation de forme et on constate pendant la période de rétention en mémoire de ces objets visuels l'émergence d'activités oscillatoires gamma qui apparaissent avec une topographie à la fois mettant en jeu à la fois les aires occipitales connues pour le traitement visuel et également des aires temporales ou temporofrontales connues pour jouer un rôle dans la mémoire. Donc un certain nombre de situations qui montrent l'intérêt de cette mesure et de cette approche finalement de l'activité cérébrale. Ce que je vais vous montrer là maintenant, c'est un autre niveau d'approche, un petit peu complémentaire de ce que vous avez vu jusqu'à présent, qui sont possibles grâce à des enregistrements intracérébraux effectués chez des patients épileptiques, et ceci au cours de leur bilan fonctionnel préchirurgical, chez les épilepsies temporales rebelles en particulier, qui sont pharmacorésistantes. Le patient est implanté avec un certain nombre d'électrodes, comme vous le voyez ici, afin de déterminer son foyer épileptogène qui va guider la chirurgie qui va suivre. Donc à cette occasion, le mapping fonctionnel préchirurgical consiste aussi à essayer de déterminer quelles sont les régions valides et encore fonctionnelles chez ces patients, et ça permet également d'explorer et de mieux comprendre l'activité cérébrale sous-tendant un certain nombre de fonctions mentales, et ceci avec des électrodes à l'intérieur du cerveau cette fois, qui permet d'appréhender directement ce qui se passe dans des régions concernées. Donc c'est une approche intéressante parce qu'elle est, elle contourne le problème qu'a évoqué tout à l'heure Denis Schwartz, qui est le problème inverse, d'essayer de localiser les régions actives à partir de l'activité de surface. Là, on est dans le cerveau et on peut voir ce qui se passe localement, bien sûr, avec une résolution excellente là où on a mis les électrodes, mais on ne couvre pas l'intégralité du cerveau et c'est la clinique qui guide ces implantations. Pour vous donner un exemple de ces questions d'oscillation et de réseau oscillatoire et de synchronisation locale et à distance qu'a déjà évoqué Denis Schwartz, je vais vous donner un exemple de cette tâche de mémoire visuelle que nous avons réalisée à l'intérieur de, chez un patient qui avait des électrodes implantées de ce type-là, où on présente au sujet une forme, une espèce de forme quelconque qui change à chaque fois, qui est présentée pendant 500 millisecondes et après un délai variable, cette forme ou une forme différente est présentée. La tâche du sujet, c'est de dire pareil ou pas pareil. Et ça, c'est à comparer à une condition contrôle où on présente au sujet une forme de ce type-là et on lui demande cette fois non plus du tout de mémoriser la forme, mais de porter son attention sur le point de fixation qui va changer de luminance à un moment donné. Donc une tâche où les deux tâches, l'attention est engagée, mais la condition mémoire engage en plus une rétention en mémoire de l'activité de la représentation de l'objet. Donc on avait un patient avec des électrodes implantées, on avait plusieurs patients avec des électrodes implantées dans des régions connues pour faire partie de la voie visuelle qui traite la forme des objets, donc les parties les plus postérieures occipitales et la partie inférotemporale du gyrus fusiforme. Et ce qui nous intéressait, donc, c'est ces activités oscillatoires qui apparaissaient dans des cours d'une tâche de ce type-là. Et on voit apparaître des activités gamma pendant la présentation du stimulus. Le stimulus est marqué ici par cette barre noire. Des activités gamma qui apparaissent pendant la présentation du stimulus, que ce soit dans les conditions mémoire ou contrôle. Ça apparaît également dans les régions plus avancées, donc de plus haut niveau du traitement visuel, ici, dans la tâche mémoire, mais pas dans la tâche contrôle. Donc on voit déjà des modulations de ces activités oscillatoires en fonction de la tâche que doit réaliser le sujet. Et on voit pendant la période de rétention en mémoire de cette forme visuelle, l'apparition d'activités bêta, de plus basse fréquence, vers 20 Hz, qui apparaissent à la fois dans les régions les plus postérieures et également dans les régions de plus haut niveau du traitement de l'information visuelle. Et ces activités bêta ont tendance à disparaître dans la condition contrôle, où là, aucune mémorisation n'est demandée. Donc on voit une modulation fonctionnelle de ces activités oscillatoires. Et la question qu'on s'est posée, c'est, comme un peu indiqué au début de mon exposé, c'est y a-t-il des coopérations entre ces différentes régions dans le décours de ce traitement de l'information et de la rétention de cette information. Donc pour cela, nous avons utilisé des méthodes de mesure de synchronisation de phase des activités oscillatoires, donc je passe assez rapidement ici, mais on peut, grâce à l'analyse par ondelette, extraire finalement en chaque pointe en fréquence une valeur d'amplitude de phase du signal que l'on enregistre. Donc on s'intéresse à la question, y a-t-il une relation entre mon électrode numéro 1 et mon électrode numéro 2? Et cette relation de phase entre les oscillations qui apparaissent ici et là, sont-elles constantes au cours des essais? Donc on va mesurer la différence de phase qui existe entre ces deux électrodes pour une position dans le domaine temps-fréquence donné. On va répéter ça à travers tous les essais et on va reporter ces phases sur un cercle de phases qui va nous permettre ensuite de mesurer un vecteur qui va nous dire, qui va nous donner le niveau de synchronisation et de stabilité de la phase à travers les essais. Qui est un vecteur qui, s'il vaut 0, on n'a aucun couplage entre les deux électrodes, et s'il vaut 1, les deux électrodes sont complètement couplées. Donc on peut représenter en temps fréquence une mesure de synchronisation de phase entre ces deux régions. Et on a appliqué cette technique-là à notre question précédente. Et donc ce qu'on a trouvé, c'est que les activités gamma ne présentent aucune synchronisation entre les deux sites explorés, qui sont ici et ici, qui sont dans cette région-là et cette région-là, alors que les activités bêta montrent une forte synchronisation, un fort couplage entre ces deux régions. Et ce couplage, en plus de ça, dans la condition mémoire, est très fort par rapport à la condition contrôle. Donc on a une modulation du couplage entre deux régions en fonction de la tâche que l'on a effectuée, et ceci pour le même stimulus visuel. Donc on a, semble-t-il, un rôle de cette synchronisation de phase entre des régions impliquées dans le traitement de l'information objet visuel et mémorisation. Donc, on observe une activité gamma locale pendant l'encodage du stimulus. Chaque région travaille localement à encoder l'information. Et on observe des synchronisations à longue distance pendant la phase de mémorisation de ces stimulus. Donc, deux niveaux de synchronisation et de traitement d'information. Ce même type de phénomène a été trouvé dans d'autres situations, comme dans le cortex auditif, toujours avec des électrodes intracérébrales, où on a des électrodes qui pénètrent à l'intérieur du cortex temporal supérieur, qui sont les régions connues pour traiter l'information auditive. On a le cortex primaire et les cortex associatifs. Et on a constaté une cartographie des réponses en fréquence différentes selon la région. Donc on a finalement des réseaux de populations de neurones qui vont fonctionner de manière oscillatoire dans des modes différents selon les régions. Et on a observé, cette courbe-là représente la synchronisation entre ces deux régions-ci, on a observé des variations de la synchronisation dans une tâche auditive où le sujet devait détecter des sons graves parmi les sons aigus, donc une tâche relativement simple, sauf qu'elle était rendue un petit peu plus complexe que ce que je vous dis là ici, mais je ne rentre pas dans les détails, donc elle demandait quand même pas mal d'attention, et on montre que des régions peuvent, pour le même stimulus finalement, se synchroniser ou pas, selon la tâche que l'on doit effectuer sur ces réponses, sur ces stimulus. Alors ça, c'est ce qu'on voit en intracérébral, des modulations de synchronisation et des patterns, des formes de temps-fréquence distinctes selon la région impliquée et participant au traitement de l'information. Et la question qu'on se pose, donc c'est un peu la question que posait tout à l'heure Denis Schwartz, c'est comment s'expriment ces activités oscillatoires à distance et de manière non invasive. Donc là, on a réalisé la même tâche chez les sujets sains avec la magnétoencéphalographie et on a pu retrouver une forme, une caractéristique temps fréquence de l'activité cérébrale en lien au même stimulus, cette fois à la surface du cortex, par des mesures complètement non invasives, ce qui va nous permettre finalement, en réponse à la question d'Yves Meyer, de commencer à valider le lien qui existe entre ce qu'on voit localement et la complexité de ce qu'on voit localement et ce qu'on voit de manière un peu plus floue à l'extérieur et qui nécessite effectivement les validations qui ont été mentionnées tout à l'heure. Une autre tendance actuelle dans l'étude de ces couplages entre régions cérébrales, ce sont à la fois les couplages entre aires, comme je viens de parler à l'instant, que je viens de présenter à l'instant, mais également des couplages entre bandes de fréquences. Et là, il y a beaucoup de travaux en ce moment qui s'intéressent aux relations qui existent entre les différentes bandes de fréquences. Est-ce que finalement, on n'est pas confronté à un système hiérarchisé où chaque bande de fréquence contribue à la mise en correspondance de certaines régions et qu'on peut avoir des couplages, je vous ai parlé de couplages de phase entre deux sites à la même fréquence, mais on peut avoir des couplages de phase également entre deux sites à des fréquences différentes. Est-ce que les activités oscillatoires gamma apparaissent toujours sur les mêmes cycles, sur les mêmes phases de l'activité θ, de plus basse fréquence par exemple? Donc est-ce qu'il y a une coordination de l'émergence des activités gamma par des régions qui, elles, fonctionnent dans un autre mode de fréquence? On peut également avoir des couplages phase-amplitude. Est-ce que la variation d'amplitude d'une activité oscillatoire dépend de la phase d'une autre fréquence? Donc tout ça, c'est le champ de la recherche qui met en jeu effectivement beaucoup de techniques de traitement de signal complexes qui cherchent à comprendre toute la complexité de la dynamique cérébrale qui est finalement beaucoup de régions impliquées dans des modes de fonctionnement différents, oscillatoires pour certains, et qui peuvent être eux-mêmes modulés par la tâche ou par la situation ou l'état mental dans lequel se trouve le sujet. Un autre exemple d'activité cérébrale gamma auquel on s'intéresse, ce sont des travaux de Jean-Philippe Lachaud au laboratoire, toujours en intracérébral, où on s'intéresse non plus à ce qui se passe tout de suite après une stimulation cérébrale, c'est-à-dire dans les centaines de millisecondes qui suivent un stimulus, mais plutôt pendant tout le décours d'une expérience, où là, on présentait au sujet des lettres qui sont indiquées ici, et à chaque fois que la lettre était précédée d'un rond vert, la lettre était à mémoriser. Et on devait ensuite ressortir la liste des lettres précédées d'un rond vert. Donc c'est une tâche un peu classique de mémoire qui consiste à mémoriser une séquence de lettres. Et on voit dans des régions qui sont des aires de Broca, qui sont des aires connues pour traiter le langage, et impliquées également dans le langage intérieur, j'allais dire, dans ce qu'on appelle le covered speech, la voix intérieure, on voit apparaître une augmentation de l'activité gamma progressivement quand on doit mémoriser les lettres qui sont nécessaires à la réalisation de la tâche, et qui augmentent au fur et à mesure de l'apparition des nouvelles lettres. Donc on arrive à avoir des marqueurs de l'activité cérébrale, non pas strictement au niveau d'un stimulus et de son traitement, mais au niveau d'un ensemble de stimulations et de la tâche que doit réaliser le sujet. Et dans ce contexte-là, une voie qui est développée au laboratoire par Jean-Philippe Lachaud, en collaboration avec le CHU de Grenoble, Philippe Kahn, c'est de mettre en place pour les patients épileptiques une cartographie fonctionnelle cognitive, oscillatoire et en temps réel, où le sujet finalement va participer lui-même à son exploration cérébrale, j'allais dire. Le principe est le suivant: à partir des enregistrements effectués sur les électrodes intracérébrales, on acquiert le signal, on fait une analyse spectrale, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et on affiche une information qui correspond à ce qui se passe à l'instant présent dans le cerveau du sujet, dans une région donnée. De cette manière-là, il est possible d'avoir une participation, de faire une espèce de mapping fonctionnel rapide de la spécificité de certaines régions cérébrales et de demander au sujet, en regardant lui-même cette activité cérébrale, de dire comment il peut relier ses sensations du moment, son état mental éventuellement, ce qu'il est en train d'entendre, avec les variations d'activité oscillatoire qu'il voit. Donc dans ce sujet-là, à chaque fois que j'écoute la musique, je vois mon gamma qui monte dans telle région particulière. Si je chante, il ne se passe rien, etc., etc. Donc ça ouvre la voie à l'autre champ qui est le champ un peu important, je pense, aujourd'hui, et qu'a déjà mentionné Denis Schwartz, et dont on va entendre beaucoup à la fin de la journée dans la table ronde. C'est l'électrophysiologie en temps réel, qui consiste en temps réel, c'est pas uniquement parce qu'on est en train d'enregistrer l'activité l'activité à la milliseconde du neurone, mais c'est qu'on peut la voir le plus rapidement possible pour en faire quelque chose. Et c'est l'objectif de cette électrophysiologie en temps réel, c'est de pouvoir mesurer des composantes électrophysiologiques spécifiques de processus ou d'états mentaux donnés, avec des domaines d'application qui sont variés, qui sont ce qu'on appelle généralement les interfaces cerveau-machine, qui sont le terme consacré pour tout ce qui concerne le contrôle de dispositifs externes, en particulier chez des patients gravement atteints de déficit moteur, donc on va en entendre parler plus tard aujourd'hui, mais c'est aussi tout ce qui concerne les apprentissages par neurofeedback, c'est-à-dire par une autorégulation de sa propre activité cérébrale, et ceci dans des situations de thérapeutiques, cliniques particulières, comme la régulation des troubles de l'attention. Des pistes sont explorées actuellement sur la dépression, sur l'épilepsie, sur la douleur. Nous avons deux projets de recherche actuellement qui s'intéressent l'un aux acouphènes, ces sifflements qu'on entend dans les oreilles après des pertes auditives importantes et qui peuvent être éventuellement, je dirais, réduites par des approches de type neurofeedback. Également les douleurs de membres fantômes chez les amputés, ce sont des situations que nous sommes en train d'explorer actuellement. Et ceci par une mesure en temps réel de l'activité cérébrale. Et c'est aussi avoir des moyens de cartographier de manière interactive et dynamique les spécificités cérébrales en demandant soit au sujet de contribuer aux corrélations entre son activité mentale et ce qu'il voit de son activité mentale, mais également de manipuler dynamiquement des protocoles expérimentaux pour tester de nouvelles hypothèses sur le rôle de certaines fonctions cérébrales et composantes électrophysiologiques. Donc cette approche-là est maintenant possible parce qu'on est un moment, je dirais, de l'histoire où on a la puissance informatique qui est présente, le traitement de signal qui permet de résoudre pas mal de questions qu'on peut avoir dans ce domaine-là, et une connaissance de plus en plus approfondie de la neurophysiologie, parce que ça, c'est important. Ici, on veut essayer de comprendre les mécanismes de régulation et de bouclage qui peuvent se passer. Et là, on commence à être vraiment au moment où ces choses-là deviennent absolument accessibles. Donc voilà, je voulais m'arrêter là. Je voulais citer les membres de mon équipe qui travaillent sur ces projets, en particulier les groupes Oscillation et Temps réel à Lyon. Je vous remercie beaucoup de votre attention.
Vous venez d'entendre Olivier Bertrand, directeur de recherche à l'INSERM, à l'unité dynamique cérébrale et cognition à Lyon. Il s'exprimait sur l'étude temps-fréquence des oscillations neuronales et de leur rôle dans les fonctions cognitives. Le précédait Denis Schwartz, du laboratoire de neurosciences cognitives et imagerie cérébrale. Il s'intéressait pour sa part à la connectivité fonctionnelle corticale révélée par les signaux de magnéto-encéphalographie et d'électro-encéphalographie. Cette séance de l'Académie des sciences signal et neurones avait lieu lieu en mars 2009 en grande salle des séances. Restez à l'écoute de nos émissions sur le même sujet. Il vous suffit de cliquer sur le thème neurosciences sur Canal Académie. Vous y trouverez des colloques, des séances, mais aussi des émissions, éclairages, où les académiciens répondent aux questions que nous nous posons sur le cerveau, cet objet physique le plus complexe du monde vivant, comme le qualifie Jean-Pierre Changeux. Merci de votre écoute et à bientôt sur canalacademie.com.